Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est un corpus de lettres manuscrites qui se perdent dans les justifications. Il y a des dépressions, des déplacements imprévus, des deuils, des accouchements, des maladies. Des lettres recueillies par la documentariste Nora Philippe, qui a réalisé en 2013 le film Pôle emploi ne quittez pas, en immersion pendant 6 mois dans l'agence Pôle emploi de Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis. La réalisatrice a accompagné ce film d'un livre, Cher Pôle emploi, où des lettres retranscrites donc expliquent les causes d'un empêchement au rendez-vous de suivi, ceux pour lesquels une absence ou une demande de report peut valoir une radiation des listes de demandeurs d'emploi. Et avec ces lettres, il y a l'idée, écrit l'auteur, que le chômage, un risque de l'existence dont l'assurance appelle des réponses collectives, a laissé la place à la culpabilisation du chômeur qui ferait presque du chômage un choix. Dans ce contexte où le discours politique s'est largement emparé de ce préjugé autour de la fraude, de l'oisiveté, la nouvelle convention chômage signée par l'UNEDIC et les partenaires sociaux est entrée en vigueur il y a une semaine avec deux objectifs affichés, je cite, « inciter les chômeurs à la reprise rapide d'un emploi durable et engager le désendettement de l'assurance chômage chômage pour en assurer la pérennité. Déficit estimé à 4 200 millions d'euros en 2016. Une convention qui étend l'assurance chômage à plus de demandeurs d'emploi, mais dont le montant des allocations et la durée d'indemnisation va se réduire pour certains d'entre eux, notamment les seniors et les travailleurs précaires. D'autre part, la notion d'accompagnement des demandeurs d'emploi semble moins poser question que celle de leur contrôle dans ce même discours politique. Alors la lutte contre le chômage devient-elle une lutte contre les chômeurs ? Sujet du jour, avec autour de la table pour en parler Jean-Claude Barbier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS, membre du centre Matisse à l'université Paris 1, et vous avez dirigé notamment cette année l'ouvrage Protection sociale, le savant et la politique, publié à La Découverte. En face de vous, Francis Kramars. Bonsoir. Vous êtes économiste, directeur du CREST et professeur associé à Polytechnique et à l'ENSAE. Et notre troisième invité est avec nous en duplex depuis le bureau de Radio France à Lyon. Bonsoir, Rosemarie Péchalin.
Bonsoir.
Vous avez été agent à la NPE pendant 28 ans et aujourd'hui vous êtes animatrice sur le forum du site internet Recours Radiation et vous répondez aux questions des personnes inscrites à Pôle emploi pour les aider dans leur démarche. Vous allez nous préciser les histoires auxquelles vous êtes régulièrement confrontée tout au long de cette émission. Donc, première question très générale, est-ce que cette assurance chômage qui s'ouvre à plus de catégories, telle que la dessine cette nouvelle convention, donc étendue à plus de profils mais aussi minimisée avec des durées d'indemnisation plus courte pour certaines catégories, est à même de guider les demandeurs d'emploi vers une reprise d'activité durable plus rapidement, telle que c'est cité dans un document de l'UNEDIC. Est-ce que ces mots, activité durable et reprise plus rapide, ont un sens, Jean-Claude Barbier, aujourd'hui ?
Je ne pense pas qu'on puisse directement tirer des éléments de la nouvelle convention qui vient juste d'entrer en vigueur. Des conclusions pour l'instant très précises. Et je pense qu'il faut tout de suite quand même que les auditeurs se rendent compte qu'on est dans une période intermédiaire puisque le gouvernement est en train de lancer à la fin novembre ce qu'il appelle des concertations avec les organisations syndicales et patronales sur la question. Donc, c'est les choses qui sont prévues par ces concertations qui ont été dessinées, mais absolument dans l'obscurité pour l'instant totale, puisqu'on n'en sait presque rien. Ces choses-là sont beaucoup plus importantes que les modifications qui ont été faites entre la dernière et l'avant-dernière convention. Notamment ce que vous avez indiqué sur l'extension à de nouveaux publics, les personnes qui ont démissionné.
Les travailleurs indépendants.
Et les travailleurs indépendants. Donc sur ces questions-là, ça va modifier considérablement l'équilibre et la dynamique de l'assurance chômage. On ne sait même pas d'ailleurs si on va continuer d'avoir une assurance chômage.
C'est ça, et on va y venir dans un instant. Avant cela, je voudrais entendre Francis Kramars sur cette question. On parle de reprise, d'une volonté de reprise rapide de l'emploi, d'une reprise durable de l'emploi, parce que avec des durées d'indemnisation plus courtes, pas sûr qu'on puisse attendre d'avoir un emploi qui nous convienne pour reprendre durablement le travail. Est-ce qu'on règle durablement le chômage avec cette nouvelle convention, avec les règles qui sont édictées dans cette nouvelle convention chômage ?
Vous présentez, chère madame, les chômeurs comme un tout homogène. Les chômeurs sont extrêmement différents les uns des autres. Certains
Je n'ai
ont
pas
besoin...
encore commencé à présenter les chômeurs, cela dit.
Non, mais vous présentez le problème un peu comme s'il y avait une seule solution qui
mais
correspondait
vous êtes là pour
à tout
nuancer,
le monde.
Monsieur
mais je n'ai pas de doute là-dessus et je pense que M. Barbier ira aussi dans cette direction. Ce qu'on sait, si on veut répondre précisément à la question que vous posez, est-ce que inciter les gens à une reprise rapide est bon ? Les travaux qui sont ici recensés dans ce petit livre des presses de Sciences Po, écrit par Messieurs Fontaine et Malherbet, montrent que toutes les évaluations vont dans le sens que vous indiquez, c'est-à-dire qu'inciter les gens à reprendre vite un emploi peut se faire aux dépens à moyen long terme de la stabilité et de la rémunération. Donc ça, c'est une chose qui est montrée par les travaux de recherche. Maintenant, ces effets peuvent tout à fait varier, à la fois dans le cycle, c'est-à-dire quand l'économie va bien ou mal, ou les médicaments, si je puis dire, que l'on peut faire ingurgiter aux chômeurs varient selon que l'on est dans une situation où il y a beaucoup d'activités économiques.
Qu'est-ce que vous appelez par médicament qu'on peut faire ingurgiter?
Par exemple, l'idée d'une formation. La formation, les travaux montrent que la formation est plus efficace lorsqu'il y a du temps devant soi, c'est-à-dire que lorsque l'économie va mal. Parce que vous ne perdez pas de temps à ne pas retrouver tout de suite un emploi. Lorsque l'économie va bien, la dynamique elle-même peut faire que, eh bien, faire une formation, ça a des effets néfastes, à court terme au moins, sur la réemployabilité, même si à plus ou moins long terme, ça a des effets positifs. Et une nouvelle fois, selon qu'on est face à des personnes qui ont par eux-mêmes un certain nombre d'éléments pour pouvoir retrouver un emploi, ou des gens qui sont dans une vraie difficulté, soit personnellement, soit à cause du métier dans lequel ils ont investi au cours des 20 ou 30 dernières années, eh bien le diagnostic et la réponse varient beaucoup et nous ne savons pas exactement, pour cet arbitrage entre reprise rapide et effet à long terme, on n'a pas tous les résultats qu'on voudrait. Donc on peut avoir plein d'a priori. Moi, mon métier, c'est pas d'avoir des a priori. Le métier, c'est d'étudier des choses, de regarder les évaluations telles que nous les faisons de manière scientifique, certainement de les compléter par des travaux tels que ceux qui peuvent être menés par M. Barbier. Mais ce qu'on sait, c'est que reprise rapide, ça peut avoir des effets différents selon qu'on est dans un cycle haut ou bas de l'économie et selon que... on est face à des gens, ça aura des effets sur la qualité de l'emploi, effectivement.
Des effets positifs ou négatifs?
Non, négatifs. Inciter les gens à trop vite reprendre des emplois, dans un certain nombre de cas, en moyenne, ça a des effets négatifs sur la qualité de l'emploi à moyen terme.
Vous avez parlé des formations, Francis Cramars, et on en vient sur ce point des formations. La durée d'indemnisation s'écourte donc dans cette nouvelle convention du fait du durcissement des règles d'entrée dans la catégorie senior, notamment les demandeurs d'emploi âgés de 53 ans n'auront plus le droit qu'à 2 ans d'indemnisation au lieu de 3 actuellement. Et ces mêmes allocataires voient leurs allocations couvertes pendant 30 mois s'ils suivent 500 heures de formation créditées sur leur compte personnel de formation. Or, les récentes politiques mises en place, comme le plan 500 000 formations de François Hollande, n'ont pas eu les effets escomptés. Rosemarie Péchalin.
Oui. Je voudrais juste intervenir par rapport aussi à la discussion qu'il y a eu un petit peu avant. Nous, quand on a créé notre site Recours Radiation, on a fait un forum qu'on a appelé Observatoire. Et on n'imaginait pas que ce serait vraiment que ça deviendrait réellement un observatoire avec des situations individuelles qui représentent de fait pas mal la situation de nombreux chômeurs. Je donne comme exemple, par exemple, les droits rechargeables qui datent de la convention de 2014 et qui ont été une véritable catastrophe qui reconduit, qui oblige les gens à à percevoir des reliquats d'indemnisation qui sont au ras des pâquerettes, qui leur permet pas de vivre du tout et qui les oblige justement à reprendre n'importe quel emploi au plus vite pour survivre. Voilà. Ce que je voulais ajouter aussi par rapport à ce qui a été dit avant, c'est que les chômeurs ne sont pas malades a priori comme ça, hein. Ce sont pas des malades qu'on doit soigner par des pansements ni par des formations d'ailleurs. Ensuite, je pense que quand on s'adresse à une personne qu'on appelle senior, qui a plus de 50 ans, en lui disant « on va vous donner une formation à la place de vous donner des indemnités », parce que c'est comme ça qu'en fait, ils peuvent le recevoir, et vous allez voir, ça va être bien pour vous, En réalité, on s'adresse à des personnes dont on considère que tout ce qu'ils ont fait avant, c'était pas suffisant, ça n'est pas suffisant. Or, ils ont des formations, ils ont des expériences, ils ont des compétences, ils ont des aptitudes. Tout ça, c'est voilà, et on leur dit, on va vous donner 500 heures de formation. Faudrait voir aussi quelle sera la qualité des formations et si on prendra en compte à la fois l'envie ou pas de la personne de faire une formation. Hein,
parce que jusque-là, Rosemary Péchala, vous dites que les formations, en tout cas celles proposées par Pôle emploi, n'ont pas vraiment l'effet escompté.
Non, mais si vous voulez, ça, tout dépend de ce qu'on parle, de quoi on parle. Aujourd'hui, par exemple, Pôle emploi parle des formations qui sont les actions formation préalable au recrutement. Parmi ces formations d'actions de formation préalable au recrutement, vous vous retrouvez avec des personnes qui sont soit indemnisées et qui continuent à percevoir leurs indemnités, d'accord, et ou alors qui perçoivent une rémunération de l'État. Et ces formations-là, elles peuvent durer jusqu'à 400 heures. Et en réalité, ce ne sont pas des formations, ce sont des stages en entreprise où on explique aux gens qu'on va les former. Il y a même un plan de formation. La plupart des gens n'ont jamais de formation. Ils remplacent un salarié, tout simplement. Je peux vous donner un exemple. Je vais vous en donner un. Allez-y. Il est énorme. Mmh. Il est énorme. Renault à Douai a recruté des personnes en action de formation préalable au recrutement. C'était des formations pour Pôle emploi, ça passera dans les statistiques de Pôle emploi. Moyennant, puisque c'est préalable au recrutement, un recrutement derrière, d'accord ? Il devait y avoir un recrutement derrière. Or, on a une personne qui était complètement estomaquée de lire dans le journal la baisse de production à l'usine de Renault de Douai allait faire qu'ils étaient obligés de licencier, enfin, pas licencier, de se passer des intérimaires qu'ils avaient. Donc, en fait, les stagiaires remplaçaient tout simplement les intérimaires. Si c'est ça, les formations dont on parle, c'est-à-dire qu'on dit aux chômeurs, vous allez remplacer des salariés, et moyennant quoi, on va vous donner une formation qui est une adaptation de 2 heures à un poste de travail, on se fout de la gueule du monde, mais vraiment. Mmh. Et des gens de plus de 50 ans, ils ne sont pas là pour servir les entreprises qui ont décidé de faire des économies.
D'autant plus que les demandeurs d'emploi qui entrent en formation sortent de la catégorie A des demandeurs d'emploi, celle qui est la plus regardée, la plus commentée.
À partir du moment où vous êtes en formation, vous vous retrouvez dans une catégorie qui n'est pas comptabilisée dans les chiffres du chômage.
Est-ce que de ce fait, Jean-Claude Barbier, excusez-moi Rosemary Péchala, je voudrais juste entendre Jean-Claude Barbier sur la question. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une politique de l'emploi aujourd'hui en France qui vise à améliorer des chiffres plutôt qu'un État ? Qu'une condition.
Bah, de toute façon, les divers gouvernements ont toujours en tête le fait d'améliorer les chiffres. Hein. C'est pas parce que c'est un gouvernement nouveau qu'il va pas essayer lui-même.
Est-ce que justement ce n'est pas ça le problème en matière de politique de l'emploi ?
Non, mais pour la politique de l'emploi, cette dimension est toujours structurante. Hein. J'en sais quelque chose puisque j'ai été pendant 3 ans directeur des études à la NPE. Donc, si vous voulez, cette dimension est là de toute façon. Moi, ce que j'entends dans les exemples qui sont pris par notre troisième
Rosemary Péchala
personne, c'est que effectivement, elle pointe sans doute un élément très important par rapport à ce qu'on appelle souvent l'activation des chômeurs. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est pas une recette magique, et en particulier pour les plus âgées, les seniors, comme vous les avez nommés. Si vous voulez, même prenons des exemples à l'étranger, puisque vous m'avez dit qu'on pouvait le faire. Aujourd'hui, par exemple, en Allemagne, vous savez très bien que le taux de chômage est très, très inférieur à celui de la France. Mais l'Allemagne a un problème, j'ai sous les yeux là...
5,4%, je crois.
C'est même moins que ça, mais enfin, bon, c'est à peu près de cet ordre. Donc, si vous voulez, j'ai sous les yeux un article qui est écrit par un collègue qui est un spécialiste des politiques de l'emploi et qui explique comment la politique qu'il a d'ailleurs expliqué depuis l'époque où il y a eu les réformes, où vous en avez sans doute entendu parler, les réformes Hartz qui ont été faites sous la dernière période de Schröder. Il explique depuis cette époque-là que en fait ça n'est pas l'activation et les obligations ou la diminution des allocations pour une partie des chômeurs qui étaient couverts auparavant, qui a provoqué l'effet emploi. Parce que les gens qui sont des chômeurs de longue durée ne sont pas employés. Si vous, aujourd'hui, il y avait déjà en 2012, il y a aujourd'hui à peu près 1 million de chômeurs de longue durée. C'est beaucoup moins que chez nous, mais c'est un noyau de personnes qui sont impossible à sortir avec les dispositifs d'activation, c'est-à-dire avec, ils ont une loi qui s'appelle Fordern und Fördern, n'est-ce pas, qui consiste à inciter les gens, à les contrôler, etc. Mais ça ne change rien à l'état en emploi de ces personnes, parce que ces personnes, elles n'ont pas les qualités qui sont demandées par le marché. Donc, il explique dans son papier, c'est le professeur Kloot, il explique que il faudrait trouver d'autres méthodes et en particulier renforcer ce qui n'est pas en Allemagne et ce qui continue d'exister en France, par opposition à la Grande-Bretagne, par exemple, il faudrait renforcer les éléments d'accompagnement. Vous avez employé le mot tout à l'heure, accompagnement.
On va y venir, oui.
Et ces éléments sont très importants. Par exemple, en Grande-Bretagne, par opposition, on a fait ce qui n'est toujours pas fini de mettre en œuvre, mais une réforme absolument énorme, en lançant une unification de toutes les prestations. Qui s'appelle Universal Credit, n'est-ce pas ? Et cette réforme, qui a pris beaucoup plus de temps que ce qui était prévu, est une réforme qui est catastrophique du point de vue de la pauvreté. Parce que le rôle de l'UNEDIC, c'est de couvrir les personnes qui sont au chômage. Mais il faut encore aussi que ces allocations chômage soient capables de les sustenter. C'est-à-dire, on a toujours en tête ce qu'on oublie souvent quand on parle du chômage tout seul et du contrôle des chômeurs. On n'a pas en tête la question de la pauvreté. Il faut qu'on parle de la pauvreté aussi.
Justement, sur cette question, Francis Kramars, dans ce contexte où il faut limiter le déficit de l'UNEDIC, comment est-ce qu'on peut justement arriver à faire de ces allocations chômage un élément qui aide aujourd'hui les chômeurs?
Cette discussion est un peu bizarre, au sens où si l'on a l'idée qu'en réformant uniquement l'assurance chômage et les mécanismes de contrôle ou ce que vous voulez, on résoudra le problème du chômage, on se trompe lourdement.
On attend quand même d'un gouvernement qu'il règle certains problèmes liés au chômage.
On attend qu'il règle les problèmes liés au chômage, mais pensez encore une fois que seuls les mécanismes d'indemnisation, de contrôle vont résoudre ces problèmes.
C'est pas ce qui est dit depuis le début de l'émission.
Non, mais on a l'impression qu'il n'y a que ça comme levier d'action.
Alors, qu'y a-t-il d'autre ?
D'abord, encore une fois, ce que nous démontrent les recherches, c'est que l'investissement doit être mis au maximum sur les personnes les plus éloignées de l'emploi. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui peuvent se débrouiller eux-mêmes, pour qui les incitations peuvent marcher, pas marcher, mais il y a des gens qui n'ont pas cette capacité à se débrouiller et qui sont suffisamment abîmés par l'éducation nationale, parce que ça, c'est quelque chose dont il faut parler. Il y a 10% de nos enfants, 10-15% de nos enfants qui sortent sans diplôme et qui, petit à petit, ont été totalement délaissés par le système scolaire. C'est un scandale. Ces gens-là manque complètement des éléments de base pour pouvoir trouver un emploi. Et ces personnes doivent être accompagnées, et accompagnées de manière très différente des personnes qui, elles, ont perdu leur emploi et qui, peu de temps avant, avaient un emploi. Deuxièmement, donc ça c'est pour l'aspect accompagnement, où est-ce qu'on met l'argent, où est-ce qu'on investit, et où est-ce qu'il y a, disons, une efficacité, et la formation qu'on va donner aux gens qui sont très éloignés de l'emploi, elle est très différente de celle qu'on peut donner à des gens qui en sont moins éloignés. Mais si l'on pense maintenant à un système qui, dans le fond, quand on pense aux épisodes qui nous ont marqués d'usines qui fermaient, mais on pourrait prendre l'exemple des États-Unis, de ces personnes qui perdent leur emploi dans des zones comme les Appalaches, et qui, surtout, donc au milieu de nulle part, il n'y a plus d'usine, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui pose problème ? Qu'est-ce qui pose problème ? Ces personnes, dans le fond, avaient un actif, c'était leur emploi. Leur usine ferme, d'accord ? Ils perdent donc tout ce qui est lié à leur emploi. Mais évidemment, comme l'usine était la seule dans la ville, si on pense à la souterraine dans la Creuse, ou une des seules, ces gens ne peuvent pas. Ils sont propriétaires, on leur a mis dans la tête qu'ils étaient propriétaires, qu'ils devaient être propriétaires. Ces gens ne peuvent plus revendre leur maison et ils n'ont pas envie de quitter le lieu parce que toutes leurs relations sociales sont complètement organisées autour de ce territoire. Donc, il y a une question essentielle, me semble-t-il, qui est de penser, quand c'est possible, la mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? La mobilité, c'est la capacité d'abord à déménager, si les gens en ont la volonté, et ça certainement...
Et les capacités financières, matérielles ?
Tout à fait, mais ça veut dire qu'être propriétaire est souvent dans un monde où il y a, comme la France... La France a cette spécificité par rapport à l'Angleterre et à l'Allemagne dont on a parlé, d'être un pays qui a 36 000 communes. Beaucoup d'entreprises, à cause de la taxation, existent, sont seules, où il y a peu d'entreprises, dans un certain nombre de communes, et c'est terrible pour les gens dès lors que l'usine ferme. Ces gens sont complètement ficelés s'ils perdent leur emploi. Ils ne peuvent pas se déplacer. Ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont propriétaires. Le marché de la location ne fonctionne pas bien. Les HLM...
Alors, il faudrait que l'État les accompagne.
Si vous voulez, avant d'être exigeant...
Tout seul, ils ne peuvent pas faire grand-chose.
Avant d'exiger, comme nos amis allemands, dans la loi Hartz, de dire « Vous devez prendre un emploi à une heure ou une heure et demie de chez vous », il faut que les gens soient en capacité de faire ça. Ils n'ont, le permis de conduire coûte très cher, la France est dispersée, ils ne peuvent pas se déplacer parce que les HLM, on ne peut pas, quand vous perdez votre HLM dans une ville, vous ne retrouvez pas une place sur la liste, sauf à la fin de la liste pour un autre HLM. Donc, avant d'exiger des personnes d'être mobiles, dynamiques, etc., il faut les mettre en position de pouvoir le faire. De même chose pour les transports en commun, avant les cars Macron, dont on a beaucoup de mal.
Juste avant, sur ce point, j'aimerais faire réagir Marie-Rose Péchala qui trépigne dans son studio lyonnais.
Oui, je trépigne, c'est pas facile. Déjà, sur l'accompagnement, il y avait une loi qui prévoyait que tous les chômeurs devaient avoir au moins un entretien tous les 3 mois. Il se trouve qu'un certain nombre de chômeurs n'ont pas été suivis tous les 3 mois parce que c'était absolument impossible. Donc du coup, il y a un certain nombre de chômeurs qui ont voulu porter plainte contre Pôle emploi, moyennant quoi la loi a changé et aujourd'hui, l'accompagnement, il est plus obligatoire. D'accord ? Voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, vous parlez, monsieur, d'adaptabilité, de mobilité, d'agilité, etc. On connaît les termes. Donc, en fait, les chômeurs doivent se bouger dans tous les sens pour essayer de trouver du travail. Moi, il me semble, franchement, j'ai envie de poser une seule question comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le monde de l'emploi aujourd'hui et le monde de la manière dont fonctionnent les entreprises aujourd'hui qui est inadapté ? Est-ce que ce n'est pas effectivement le marché du travail actuel qui est inadapté ? C'est une des questions que je pose. Ensuite, par rapport à cette fameuse dette de l'UNEDIC. La dette de l'UNEDIC, c'est ce qui permet effectivement d'effrayer tout le monde et de dire il faut vraiment qu'on réduise les droits des chômeurs parce qu'on ne pourra pas tenir comme ça longtemps, etc. Qui se rassure les partenaires sociaux, de toute façon l'UNEDIC va sûrement disparaître et ça ne sera pas à cause de la dette, ça c'est sûr. En revanche, il y a une bonne nouvelle. Il y a un audit citoyen qui est en train de se mettre en place pour essayer d'identifier les causes et les mécanismes de cette dette, pour peser dans le débat public et pour voir, pour peser dans le débat public. Parce que, quand même, c'est 35 millions qui transitent dans cet organisme-là. Et ces 35 millions-là, il faut quand même le rappeler. Ce sont des cotisations des salariés. C'est notre argent, c'est notre fric. Et je veux dire, il y en a assez de nous mettre en exergue la dette. Surtout qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, les évasions fiscales, mais c'est honteux, quoi. C'est honteux, c'est-à-dire que...
Alors, juste avant de vous entendre, Francis Kramers, j'aimerais poser la question. Que posait à l'instant Rosemary Péchala ? Est-ce que le marché de l'emploi est inadapté aujourd'hui ?
Le marché de l'emploi, il est toujours inadapté. Le marché de l'emploi, c'est quelque chose de dynamique qui n'arrête pas de changer. Les entreprises, les conduites, les comportements des entreprises, les comportements de recrutement, etc. Il y a tout un tas de mécanismes qui sont bien installés et qui sont tout à fait inadaptés pour répondre à la meilleure efficacité. Il y a des comportements de discrimination, etc. Donc le marché de l'emploi, il est de toute façon inadapté. Le le problème de la question de l'indemnité du chômage, qui d'ailleurs, je répète, ne doit pas être séparé de la question des allocations qu'on appelle d'assistance ou d'aide sociale, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le RSA, c'est-à-dire d'autres minimums, parce qu'en France, on en a plusieurs. Donc, ces éléments-là ont une efficacité qui consiste à soutenir les revenus des personnes qui, quand par exemple, ils n'ont plus droit à l'allocation chômage d'assurance, ben, ils ont une autre allocation, par exemple le RSA. Bon, donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut considérer dans la dynamique. Et effectivement, la question de la dette est une question clé, mais ça n'est pas la seule question, parce que de l'autre côté...
C'est quand même une question centrale en ce qui concerne cette nouvelle convention, parce qu'il est vrai qu'on nous présente cette nouvelle convention comme...
Il faut
combler la dette de l'UNEDIC, et en même temps, voilà, ça suppose des durées d'indemnisation réduites, et des indemnisations parfois réduites elles aussi, pour les futurs demandeurs d'emploi.
Cet aspect-là, pour moi, me paraît un peu surréaliste. Pourquoi ?
C'est-à-dire ?
Parce qu'en fait, la semaine prochaine, le gouvernement va ouvrir les concertations avec les représentants des partenaires sociaux. Et donc, on a bouclé une convention cet été, et on la met en œuvre maintenant. Mais les questions qui vont être sur la table désormais, si effectivement on suit ce qui a été dit, mais c'est d'une manière très obscure, ce qui a été dit, c'est qu'on allait intégrer les personnes qui ont démissionné, les indépendants. Bon, les indépendants, c'est encore plus fantaisiste, parce que les indépendants, alors là, c'est encore plus compliqué que les salariés, c'est encore plus divers à l'intérieur des indépendants. Il y a des gens chez les indépendants qui n'ont absolument aucun...
Ça implique que les futures allocations chômage ne soient plus financées par les cotisations salariales.
Oui, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on remet tout en cause,
n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça.
Le système d'assurance, ça passe sous la responsabilité de l'État. Est-ce qu'il va y avoir une seule allocation ou plusieurs? Il y a eu des simulations qui ont été faites par France Stratégie, dans laquelle il y avait plusieurs types d'allocations. Tout ça est sur la table aujourd'hui. Alors c'est pas la convention toute seule là qui vient de démarrer, qui va résoudre les problèmes. Sauf si effectivement on fait pas la réforme qui est annoncée.
Avant de poursuivre ce débat, je voudrais vous faire entendre un court extrait du documentaire de Nora Philippe dont je parlais au début de l'émission. Pôle Emploi ne quittait pas, film en immersion tourné donc dans l'agence Pôle Emploi de Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis. C'était en 2013.
Pôle emploi, pour l'instant, ne propose pas de formation sur le domaine de la sécurité. Maintenant, rien ne vous empêche de rechercher à vous des formations et de vous les financer éventuellement. C'est vous qui allez vous les payer. Après, il y a les métiers du style livreur, chauffeur-livreur, en attendant que vous trouviez votre voie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ?
Oui, ça marche.
De toute façon, ce qu'il faut, c'est travailler. Après,
oui.
Dans quel domaine, ça sera en fonction des capacités que vous avez intellectuelles et professionnelles. D'accord ?
Oui.
La lutte contre le chômage devient-elle une lutte contre les chômeurs ? C'est la question à laquelle nous réfléchissons sur France Culture dans Du Grain à Moudre avec le sociologue Jean-Claude Barbier, l'économiste Francis Kramars et l'ancienne agent ANPE, toujours accompagnatrice de demandeurs d'emploi, Rosemarie Péchala. On entend donc un peu tout dans cet échange entre un demandeur d'emploi qui recherche un travail de vigile et un conseiller qui lui conseille avant tout de travailler, quel que soit le travail trouvé, même pourquoi pas de se payer lui-même une formation en attendant. Est-ce qu'on pourrait pas attendre d'une convention plus globalement de n'importe quelle politique de retour à l'emploi, qu'il se détache du quantitatif, des évaluations chiffrées et qu'elle propose ces politiques un chapitre plus conséquent sur l'accompagnement des chômeurs, mais aussi sur l'accompagnement des conseillers Pôle emploi, Rosemarie Péchala.
Si vous voulez, l'accompagnement, tout dépend de ce qu'on entend par accompagnement. À Pôle emploi, on dit aussi que les personnes qui contrôlent, elles aident à l'accompagnement, puisqu'elles ne font pas que sanctionner. C'est aussi ce qui se dit, vous voyez. L'accompagnement, il est suivi. Quand on voit ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a été dégradé, qu'on l'a supprimé. Je vous l'ai dit, hein, il a été supprimé. C'est une prestation comme Active Emploi qui met les gens, en gros, devant une plateforme avec des codes épisodes et des personnes qui ressortent de là en étant plus dépités qu'autre chose, parce qu'ils n'ont rien à, enfin, en gros, ils n'ont rien retiré de tout ça. Et quand ils ont la chance de trouver un emploi, c'est grâce à leur démarche à elles, à ces personnes-là. Elles sont autonomes et elles se retrouvent effectivement infantilisées à faire des choses complètement absurdes. Cette prestation-là est payante. Ce sont des organismes privés qui la mettent en place. Donc, il y a de l'argent. Il y a de l'argent pour quoi faire? Pour occuper les chômeurs dans des prestations qui servent à rien, puisque Active Emploi ne sert strictement à rien. Je veux dire, ça a été démontré par... D'ailleurs, il n'y a pas eu de bilan sur cette prestation encore. Hein. Et elle coûte cher, puisque le contrat qui a été établi avec les organismes, c'est qu'il faut faire rentrer un certain nombre de chômeurs. Et si le nombre de chômeurs n'y est pas, on les paye quand même. Voilà. Donc, pour l'accompagnement, voilà. C'était quoi votre autre question? Excusez-moi.
Et sur l'accompagnement, est-ce qu'on ne pourrait pas attendre de politiques d'aide au retour à l'emploi qu'elle se défocalise du quantitatif et du chiffre pour se focaliser sur
les procédures
d'accompagnement?
Bien sûr, si vous voulez, si on faisait, bon, concrètement, si on faisait un véritable accompagnement, comme je l'ai fait, moi, de mon temps, et comme mes collègues le faisaient il y a quelques années, quand la NPE existait, puisque ça existe depuis un moment, l'accompagnement, on s'était rendu compte qu'effectivement, on arrivait à des résultats qui étaient durables. Pourquoi ? Parce que on prenait le temps qu'il fallait pour conduire et construire un projet. Et on mettait les moyens qu'il fallait avec dans la mesure du possible bien sûr pour que la personne puisse construire son projet. Ça pouvait passer par toutes sortes d'étapes, mais on arrivait à construire des projets avec lesquels les personnes étaient en accord. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on insère des personnes dans des dispositifs, dans des prestations qu'il faut remplir à tout prix. Tout le monde est mal, hein. Les chômeurs qui arrivent la boule au ventre parce que ils savent qu'on va leur proposer une nouvelle fois une façon de chercher un emploi alors qu'ils cherchent déjà et qu'ils n'ont pas trouvé, qu'on va leur faire travailler leur CV, leur lettre de motivation, je ne sais combien de fois, comme un hamster dans une cage, hein, tourner sans arrêt le CV dans tous les sens. Et tout ça, ça mène pas forcément à l'emploi. Donc ces personnes ont la boule au ventre, mais les conseillers qui prescrivent ont elles aussi la boule au ventre, parce qu'elles se rendent bien compte qu'elles font du forcing pour envoyer des gens dans des prestations qui leur servent à rien. Elles le savent que ces prestations servent à rien. Et voilà, donc l'accompagnement, oui, mais dans les conditions où c'est parti, ça m'étonnerait que ça fonctionne.
Sur ces conditions d'accompagnement, je voudrais entendre Francis Kramars à nouveau sur cette question. Sur 20-22 millions de recrutements dans le pays annuellement, Pôle emploi n'en capte que 2 à 2,5 millions. Ça, c'est Anne Fretel, des économistes atterrés, qui le dit. Ce service public n'a pas la capacité, selon donc les économistes atterrés, de proposer deux offres raisonnables d'emploi. Est-ce que c'est aussi votre avis?
Qu'est-ce qu'il faut conclure de ça? Tout ça, enfin, je trouve que le débat devient effectivement un peu surréaliste, au sens il ne faut pas mesurer, il ne faut pas évaluer, il ne faut pas... Attendez, on parle d'argent public, si j'ai bien compris, pour une partie des choses, dans les politiques actives en particulier. On sait quand même beaucoup de choses sur les façons des choses qui ont marché.
Je le répète,
l'accompagnement doit être concentré sur les personnes qui sont les plus loin de l'emploi. Les formations doivent être concentrées sur les personnes.
Vous le dites comme une évidence. Alors pourquoi est-ce que ces personnes qui sont aussi éloignées de l'emploi aujourd'hui ne sont pas remises? Enfin, cette convention n'en fait pas mention. Pourquoi est-ce qu'elles ne font pas partie du débat aujourd'hui?
Il y a des questions politiques. Mon métier, c'est d'être chercheur. Mon métier, c'est pas de. Si je voulais être homme politique, j'aurais été homme politique. Si j'avais voulu diriger l'UNEDIC, non, j'aurais pas réussi, évidemment, parce que il faut avoir un talent que je n'ai pas. Mais, si vous voulez, moi, je me contente de dire ce que l'on sait. Ce que l'on sait, c'est que, par exemple, que le rôle de nos amis, personnes de Pôle emploi, les conseillers, est extrêmement important. Mais sauf qu'ils sont souvent laissés dans le bleu, parce qu'ils n'ont pas suffisamment... On sait, il y a des pays, le Danemark, la Suède, qui savent beaucoup mieux prévoir ceux qui seront longtemps au chômage. Et il faut concentrer encore une fois nos efforts sur ceux pour qui le risque de chômage de longue durée ou de rester au chômage longtemps est le plus important. D'accord ? Or, malheureusement, les travaux montrent que ça va faire hurler Madame Péchala, mais c'est pas grave, elle me déteste déjà. Entre ce qui est fait dans les dispositifs d'accompagnement qui ont été évalués et le tirage au sort, disons une allocation au hasard des accompagnements, il n'y a pas de différence. Pourquoi ? Parce que les conseillers Pôle emploi qui sont dévoués, c'est vraiment pas eux qu'il faut mettre en cause, c'est l'environnement dans lequel ils travaillent. Mmh. Il est absolument nécessaire qu'ils se concentrent sur un public limité, qui puisse les voir régulièrement, une fois par mois, c'est normal. Mais pas tout le monde. Il y a des gens, il faut, encore une fois, tous les traitements, toute la façon, je suis désolé d'utiliser ce terme médical, mais on ne doit pas appliquer les mêmes remèdes à toutes les personnes. Des personnes doivent être extrêmement bien suivies, et c'est pas une question de contrôle. Et d'autres doivent être effectivement contrôlées, parce qu'on sait que ces personnes-là ont toute capacité à retrouver un emploi.
C'est ce qui se passe en ce moment, Francis Kramer, c'est que tous les chômeurs ne sont pas traités de la même manière à l'emploi, et heureusement, puisqu'il y en a qui n'ont pas besoin
non,
de voir.
Non, parce qu'on manque de dispositifs de profilage.
D'avoir tout le temps des rendez-vous.
On manque de dispositifs précis de profilage pour savoir ceux qui sont les plus à risque de perdre leur emploi ou de ne pas en retrouver un rapidement.
Jean-Claude Barbier, vous voulez intervenir.
C'est pas la question des dispositifs de profilage. Ça, c'est un système qui, d'ailleurs, puisque vous prenez comme exemple le Danemark, que je connais un petit peu, n'est pratiquement pas utilisé au Danemark. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'effectivement, on ne peut pas traiter toutes les catégories de demandeurs d'emploi de la même manière. Si vous avez dit qu'il y a mm-hmm. qu'une petite partie des offres qui passent par la NPE, enfin le Pôle emploi, c'est bien pour une raison. C'est parce qu'il y a aussi d'autres modes, d'autres canaux de recrutement que
les candidatures spontanées, notamment, et les relations
Donc ça, c'est un fait, si vous voulez. Bon, mais ce qui est très important de dire, c'est que dans des pays qui sont justement souvent considérés comme des pays à essayer d'imiter. Je prends le Danemark. Dans ces pays-là, on ne considère pas tout le monde comme devant être l'objet du même traitement par le service de l'emploi.
Et vous dites d'ailleurs, Jean-Claude Barbier, à propos du Danemark, que c'est un pays où la pauvreté est la moins répandue parce que cela n'est pas dû aux réformes d'activation comme celle dont
oui, mais
vous parlez, mais plutôt à la générosité de la protection
sociale.
Oui,
il y a la générosité de la protection sociale, mais les réformes d'activation qu'on appelle comme ça, ces réformes-là, elles ont eu aussi. C'est d'ailleurs là qu'elles ont été au départ le plus formalisées, puis ensuite on a essayé de s'en inspirer ailleurs. Et ces réformes n'ont jamais remis en cause le fait que on considérait les chômeurs comme étant plus ou moins éloignés de l'emploi. C'est-à-dire qu'on n'appliquait pas la même méthode, les mêmes règles à tout le monde en fonction de qualité, la formation, la capacité, les compétences, etc. Donc on ne demandait pas, par exemple, aux gens, c'est ce qu'on a fait de différent au Danemark, et pour ça, ça a réussi, par rapport à ce qu'on fait en Grande-Bretagne.
Mais le fait de ne pas traiter tous les chômeurs de la même manière, c'est déjà ce qu'il se passe, Rosemary Péchala.
Écoutez, moi, j'ai pas. Si ça vous dérange pas, je vais pas répondre à votre question. Je vais. Je suis désolée, mais
vous allez.
Moi, déjà, ce que je peux vous dire, moi, c'est que je travaille plus à Pôle emploi. Et je me demande ce qui se fait aujourd'hui à Pôle emploi. Franchement,
demandez un contrôle des conseillers, des contrôleurs.
Quand je vois ce qui se passe sur le forum de Recours Radiation, je suis très inquiète. Je pense que tout le monde est maltraité aujourd'hui, que ce soit les conseillers de Pôle emploi ou que ce soit les chômeurs. Il y a une maltraitance, il y a une souffrance. Et en plus de ça, le fait que plus de 50% des chômeurs ne soient pas indemnisés et que l'indemnisation soit de plus en plus...
Plus 40% des demandeurs d'emploi qui ne demandent pas leurs allocations chômage.
L'indemnisation qui est de plus en plus réduite. Mm. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce qui va se passer.
Merci Rosemary Péchala, on va devoir en rester à cette question.
Excusez-moi,
on va devoir arrêter cette émission.
À cause de la misère, vous voyez.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir tenté de répondre à cette question. La lutte contre le chômage devient-elle une lutte contre
contre les chômeurs. Rosemarie Péchala, depuis le bureau de Radio France à Lyon, merci et désolée de vous avoir coupé la parole en cette fin d'émission. Jean-Claude Barbier, sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Francis Kramars, économiste et directeur du CREST. On pourra retrouver vos bibliographies et cette émission à podcaster et réécouter sur la page du Grain à Moudre sur le site de France Culture. Un grand merci à l'équipe du Grain qui a préparé cette émission. Antoine Dulster, Virginie Leduo, Philippine Lebray, Fanny Richer et Eva Pellerin, ainsi que Claire Juillot dans les studios de Radio France à Lyon. Véronique Villa à la réalisation, avec ce soir à la prise de son Nicolas Delmas. Et dans un instant, on retrouve Arnaud Laporte. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Émilie, dans 3 minutes dispute musique. En effet, vous avez quand même quelques secondes malgré tout pour donner le programme d'Hervé Gardette dans du Grain à Moudre. Demain, il sera de retour quand même.
Il sera de retour. La France a-t-elle une politique arabe? Ce sera la question qu'il posera demain soir.
Bien. Il faudrait plus que 40 minutes, mais bon, enfin, il le traite régulièrement ce sujet. Merci beaucoup Émilie. Tout de suite, les titres de l'actualité avec Adrien Toffolé.